Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'Ancien Testament. Adore, c'est pas un mot qu'il faut utiliser. J'aime bien. Pourquoi? Parce que chaque fois que je suis dedans, je suis obligé de chercher où il est Jésus. Dans le Nouveau Testament, c'est tout simple. Vous prenez, paf, vous lisez, vous voyez Jésus là, hein. Mais dans l'Ancien, c'est un peu difficile. Hein? Aujourd'hui, je vous invite dans Lévitique 26, et si le Seigneur le veut, par la semaine prochaine, mais au retour de mes petites vacances, je vais vous faire plusieurs prédications sur l'Ancien Testament, hein, pour vous montrer, pour qu'on puisse voir ensemble la façon de rechercher Jésus. Des fois, on lit des versets... Et on ne le voit pas, mais si on regarde en profondeur, on le voit, car il est là. Hein? Voilà, et ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à méditer dans le livre de Lévitique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup, même des chrétiens, qui ont lu entier les livres de Lévitique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'est arrivé dans le temps. Il y a tellement de choses qui parlent de sacrifices, de sacrificateurs et tout ça, et plein de noms, et des fois on ne le lisait pas, on changeait de chapitre, n'est-ce pas? Mais c'est un livre qui est plein d'instructions, et le chapitre 26, voilà, c'est un chapitre qui nous montre deux chemins. Le chemin de la désobéissance, est le chemin de l'obéissance. Automatiquement, l'obéissance mène à la vie éternelle et la désobéissance, il nous mène à la malédiction. Et ici, dans ce verset, dans ce chapitre, on voit ces deux choses. On va regarder le chemin de celui qui est obéissant et le chemin de celui qui est désobéissant. Et le Seigneur, il nous en parle de ces deux chemins. Vous connaissez tous ce verset, lorsque le Seigneur il dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Qui c'est qui se trouve dans ce chemin? C'est ceux qui n'obéissent pas à la parole. Mais il dit, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Parce qu'il faut rentrer dans ce chemin qui est étroit. Il faut être complètement vide. Vous savez, c'est comme lorsque vous mangez un poisson, avant de le manger, il faut le vider. Parce qu'il faut enlever de notre être tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Car vous savez que nous sommes des pécheurs. Donc, je vous invite à examiner ce chapitre. Mais d'abord... automatiquement, regardons le chemin de l'obéissance, de celui qui est obéissant. Et on peut voir de premier verset les traits caractéristiques de l'homme qui est obéissant. Déjà, on le voit au premier verset, il dit, « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays, aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, première caractéristique, c'est que ceux qui sont obéissants, ils n'ont pas d'idole. Qu'est-ce que c'est qu'un idole? Un idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. On dit, mais moi, on vit dans un pays occidental, n'est-ce pas? On n'a plus d'idole. Mais oui, mais lorsque vous êtes à la maison et il y a une réunion à l'église, et vous dites, ah oui, mais il y a les fées de l'amour. Je vais le rater. Ça, c'est une idole. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Et une idole aussi, c'est les soi-disant images aux statues qu'on voit partout. Et le Seigneur est clair, hein? Vous ne vous ferez pas d'image taillée ni statue. Comment peut-on être ou dire qu'on appartient à Dieu lorsqu'on fait des images, des statues, on les expose et on dit aux gens, adorez ces images. Et pourtant, Dieu, il nous dit exactement le contraire. Des fois, je me pose la question, comment ces gens, ils lisent la parole de Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que nous croyons à ce que Dieu, il nous dit dans sa parole? Je l'ai dit tout à l'heure dans l'étude biblique, pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on n'était pas aussi nombreux, n'est-ce pas? Et comme il a dit le frère Bruno, comme lui, j'étais catholique. L'autre jour, il y avait un soleil terrible, et j'étais à Alésia, et je suis rentré dans une église, parce que là, il fait frais. Il y avait plein de traités, j'ai pris un traité dans lequel il disait, on va enseigner la Bible, l'Ancien Testament, à des enfants de CM1. Donc, c'est les enfants. Et, mais il tout de suite dit, on va enseigner l'Ancien Testament, mais on ne parlera pas de Jésus. Vous vous rendez compte? On ne parle pas de Jésus. De qui voulez-vous parler? Vous savez, prêcher, qu'est-ce que c'est que prêcher? Je vous l'ai déjà dit. Prêcher, ce n'est pas dire quelque chose. Parce que n'importe qui peut venir ici. Elle peut vous parler de la cuisine, de dire quelque chose. Mais prêcher, c'est avoir quelque chose à dire. Et celui qui prêche, il a quelque chose à dire. Il a à annoncer celui qui est descendu ici-bas et il a donné sa vie pour nous. Nous avons une seule personne que nous devons annoncer, c'est Jésus. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des messagers. Ce n'est pas important ce que moi je suis, mais ce qui est important, c'est celui dont je vous parle. Et c'est celui dont je vous parle, c'est Jésus. Et ici il dit, ne vous paierez pas des idoles. Vous ne devez pas avoir des idoles. Et ça c'est la première caractéristique. Verset 2, une autre caractéristique. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Ce n'est pas de révérer les sabbats, parce que les sabbats, Dieu, il l'a donné au peuple juif. Et explicitement au peuple juif, pas à nous. Si on est juif, on doit observer les sabbats. Pour nous, c'est quoi ça? C'est observer la parole, le commandement que Dieu il nous dit. Tout ce que Dieu il nous dit, nous devons l'observer. Et pas se dire, encore une fois, je répète parce que ce matin on a parlé un peu de ça, de se dire oui, mais peut-être que... Non, lorsque Dieu parle, c'est comme ça. Dieu, il est immuable. Les choses qu'il a dites il y a 4000 ans ou 5000 ans, ils sont valables aujourd'hui aussi. Et à cette époque-là, tout ce qu'il a dit dans la loi, il était valable jusqu'à quand celui qui représente la vraie loi, Jésus-Christ, il est venu ici-bas. Voilà pourquoi Jésus, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. C'est-à-dire la loi morale, c'est les 10 commandements. Jésus, il n'a pas aboli la loi. C'est lui qui observe la loi, les 10 commandements. Il a le salut parce qu'il aime Dieu, il fait ce que Dieu lui dit et il aime son prochain. Mais Jésus, il est venu abolir la loi des sacrifices, la loi des cérémonies rituelles. C'est ça qu'il abolit. Plus de sacrifices. Pourquoi? Parce que les sacrifices, il a été fait par et à travers Jésus-Christ. Il n'y a que lui. observer les commandements de Dieu, les mettre en pratique. Troisième caractéristique, hein, au verset 3, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Troisième caractéristique, c'est de mettre en pratique ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Et ça, c'est quelque chose dans lequel nous tombons très souvent. Et dans lequel beaucoup, ils enseignent que peut-être Dieu, il n'a pas voulu dire ça. Mais il dit, c'est lui qui connaît, qui les observe et qui les met en pratique. Qui les met en pratique. Et là encore, voilà pourquoi je vous ai dit, les enseignements de Jacques, de l'épître de Jacques, sont très importants. Parce que Jacques, elle dit, tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. C'est vrai que quelqu'un il peut me dire, je suis chrétien. J'ai Jésus-Christ dans mon cœur, il le pas, il le dit. Mais si par la suite je sors dehors et je le vois qui maltraite quelqu'un, qui ne dit pas bonjour à un frère, qui ne fait pas ce qu'il faut faire en tant que chrétien, je peux me poser des questions. Ce n'est pas à moi de dire qu'il est sauvé ou pas, je ne rentre pas dedans. Voilà pourquoi il dit, tu dis que tu as la foi. Automatiquement, si on a la foi, on la doit accomplir. On doit la mettre en pratique. Voilà ce qu'il dit. Ils sont guidés par la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Quatrième caractéristique, on l'a toujours dans le verset 3. Hein, ils aiment la volonté, hein, et oui, ils connaissent la volonté de Dieu et encore une fois, ils la mettent en pratique. Quelqu'un dira, mais je ne connais pas la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, c'est que tu ne lis pas sa parole. Parce qu'il nous éclaire dans Amos. Il dit, l'Éternel dit au homme, je te fais connaître quelle est ma volonté. Je te fais connaître. Où est-ce qu'elle est la volonté de Dieu? Elle est là. Dans la parole. Si on ne lit pas la parole, si on ne la médite pas, si on ne l'étudie pas, automatiquement, nous nous posons des questions à propos de la volonté de Dieu. C'est ça. Voilà les quatre caractéristiques des hommes obéissants. Et il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous montre les bénédictions pour ceux qui obéissent. Alors ici, ce chapitre, il nous montre les bénédictions que Dieu il donne à ceux qui obéissent. Au verset 4, regardez. « Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Vous me direz, c'est ça la bénédiction que Dieu me donne. Bien sûr, Dieu il parlait à un peuple qui était dans la campagne. Et leur richesse, c'était par rapport à ce que les champs ils pouvaient donner. Pour ceux qui obéissent, la bénédiction de Dieu, c'est la fertilité. La fertilité dans notre propre vie pour porter des fruits. Mais si vous regardez bien ce verset, c'est marqué « si ». Si. Hein? Je vous enlèverai les pluies en leur saison. Les six, c'est au verset 3. Hein? Mais les quatre, il suit. Hein? C'est toujours par rapport à ça. Hein? Si je vous mettez en pratique mes commandements et vous observez mes bénédictions, je vous enverrai la fertilité. Voilà la condition de Dieu. Les souhaits de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Et celui qui suit ses commandements, qu'il est obéissant à ce qu'il dit, il va nous donner la fertilité. Nous porterons des fruits. Et c'est ça que le Seigneur il nous dit dans Jean. Il dit que si nous portons des fruits, votre Père il sera glorifié. Et nous avons été créés pour glorifier Dieu. Paul il nous dit que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Donc, la première bénédiction, c'est porter du fruit. Il faut être attaché au cep pour que la sève puisse couler. Et à cette fois, parce que nous nous sommes attachés au cep, la sève qui tombe de ce cep, qui est Jésus, moi je suis le vrai cep, que cette sève coule à nous et nous puissions. Et il a dit, le Seigneur, des fleuves d'eau vive, ils vont se répandre tout autour de vous si vous êtes attachés à Jésus. Il nous donnera la fertilité. Hein? Une autre bénédiction au verset 6. Je mettrai la paix dans les pays et personne ne troublera votre sommeil. Encore une bénédiction que le Seigneur il donne à ceux qui obéissent, la paix et le repos. La paix et le repos. Le peuple d'Israël s'est trouvé devant la mer Rouge, derrière il avait les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moïse, tu nous as envoyé là. Et Moïse, il dit, restez tranquilles et regardez la grandeur de Dieu. C'est ça que le Seigneur désire nous donner, la paix et le repos. Tous ceux qui nous entourent, hein, le Seigneur, il va les balayer. D'ailleurs, Moïse, il a dit aux Hébreux, il a dit, regardez les Égyptiens, vous les voyez maintenant, mais vous ne les verrez plus. Ils ont suivi dans la mer Rouge, et vous savez ce qui est arrivé. Suivons l'Éternel, et il va nous donner la paix. Et les repos de nos âmes. Une autre bénédiction, hein, et vous, au verset 6, mais la deuxième partie. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Encore une fois, ici, il parle à des gens qui vivaient dans les campagnes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est que le Seigneur il promet à ceux qui sont obéissants? Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Voilà, le Seigneur, à ceux qui lui obéissent, il lui donne la délivrance des choses mauvaises. Vous me direz, mais il n'y a pas de bêtes féroces à côté de moi. Mais oui, mais ici, les bêtes féroces, c'est tout ce qui nous entoure. La délivrance de l'alcoolisme, la délivrance du jeu, la délivrance du tabac, la délivrance de toutes ces choses qu'ils peuvent nous allumer. Et vous savez, c'est des bêtes féroces. Parce que si on n'a pas l'aide du Seigneur, on n'y arrivera pas. C'est grâce et par Jésus-Christ que nous pouvons être délivrés. Mais encore une fois, si vous obéissez. Et c'est ça que le Seigneur il nous dit, les bêtes féroces. Hein, ici, je vois ici les boissons fortes, l'amour de l'argent, celui du plaisir plus que Dieu, l'orgueil, l'impatience, toutes ces choses-là. C'est des bêtes féroces qui sont là, que si nous nous laissons prendre par elles, c'est terminé pour nous. Mais nous avons cette assurance que si nous sommes obéissants, Dieu, il va nous bénir. Encore une bénédiction, on le trouve au verset 7 et 8, regardez. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Voilà, la bénédiction pour ceux qui obéissent, c'est le pouvoir de triompher. Les pouvoirs de triompher. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous bénit. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Et ici, c'est dans ces combats spirituels, ce n'est pas le nombre qui compte. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'ils font, 5. Il dit 5, ils vont en prendre plus que 100. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais ce qui compte, c'est de quel côté nous sommes. Vous savez, le chiffre 1, il a beaucoup d'importance. Le chiffre 1, ça représente Jésus. Vous mettez 6 zéros, c'est zéro, mais vous mettez le 1 devant, ça fait 1 million. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Sans Jésus, nous sommes zéro. Mais si nous avons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, nous comptons. Parce que ce n'est pas nous qui agissons. Paul nous a dit que Dieu, il se plaît dans les choses faibles, dans les choses petites. Pourquoi? Parce que la gloire, elle doit revenir qu'à Dieu. Qu'à Dieu. C'est lorsque nous regardons à nous-mêmes que les choses y vont mal. Mais lorsqu'on a les yeux fixés sur Jésus, tout devient facile. Il nous le dit ici, hein. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Vous me direz, oui, mais on a le Seigneur avec nous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et il va encore plus loin. Hein. 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis, ils tomberont. Pourquoi? Parce que Dieu, il est avec nous. C'est ça la bénédiction. N'ayant peur de rien, nous avancerons. Je ne sais pas si vous en souvenez, cette histoire que dans la ville de Samarie, alors je crois que je vais être un peu long, hein. Bon, il y a du soleil, c'est bon. Hein. Dans cette Samarie, il y avait les Syriens tout autour d'eux. Ils étaient assiégés depuis très longtemps. Alors ils n'avaient plus rien à manger. À la porte de cette ville, il y avait deux lépreux. Vous savez que les lépreux étaient des gens mis à part. Pourquoi? Parce qu'ils étaient lépreux, ils étaient impurs, donc ils n'avaient pas le droit. Et si ceux dans la ville, ils n'avaient pas à manger, eux, encore moins. Alors les deux lépreux, ils se sont dit, mais on ne peut pas rentrer dans la ville. Derrière nous, il y a les Syriens. Il a dit, écoutez, allons dans les camps syriens. Mais dans la ville, les gens de Samarie, ils étaient dans la tristesse, dans l'affliction, dans la faim. Et à un certain moment, Dieu, il envoie un homme de Dieu pour leur dire, demain, il y aura du pain en abondance. Voilà. Mais eux, ils ont dit, comment on peut faire ça? Les lépreux, ils ont dit, dedans, on ne peut pas rentrer. Dehors, il y a les Syriens. Allons vers les Syriens, car mourir pour mourir, au moins les Syriens, ils vont nous tuer tout de suite par l'épée. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les camps syriens. Et qu'est-ce qu'ils voient? Il n'y a personne. Bon, Dieu, il était intervenu. Il a fait partir les Syriens en faisant venir une nouvelle de leur pays. Ils ont quitté tout et ils ont laissé les campements pleins de vivres, pleins de pain. Alors, ces deux lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va garder tout ça pour nous. Ils ont bien mangé, mais à un certain moment, ils ont dit, non, ce n'est pas juste, il y a nos frères. Ils ont été à la ville, ils leur ont dit, regardez, les Syriens sont partis, il y a ce camp-là qui est plein de choses à manger. Là. Il y a les rois qui n'ont pas voulu croire, mais il y en a beaucoup de partir pour partir. Ils ont été là, et cette prophétie que Dieu il avait faite, demain, il y aura du pain en abondance. Il s'est réalisé. Encore une fois, Dieu, il ne désire qu'une chose, nous bénir. Mais la seule question qui se pose, c'est nous, est-ce que nous désirons être bénis par Dieu? Mais qui ne veut pas être béni? Oui, je sais, mais Dieu, il te dit, tu veux être béni, observe mes commandements, suis ma volonté. C'est ça que le Seigneur désire. Et ça, c'est une bénédiction. 5 d'entre vous, pas besoin d'être nombreux. Dans nos réunions de prière, des fois, on est 2, on est 3. Des fois, on est plus nombreux. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. C'est celui qui est là parmi nous, Jésus-Christ. Dans une église, on n'a pas besoin d'être. C'est ce qui compte, c'est un noyau. Le Seigneur, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et nous devenons forts en cela. Il nous bénit. Voilà une bénédiction. Et au verset 9, regardez encore. Il dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Ici, il y a encore une bénédiction et c'est une faveur spéciale. Dieu lui-même, il est avec nous. C'est une faveur spéciale de Dieu. Nous qui étions des pécheurs, nous qui méritions les châtiments et toutes ces choses-là, Dieu, il nous pardonne par et à travers Jésus-Christ et il nous dit, je suis avec vous. Et ici, c'est ce qu'il lui dit, je me tournerai vers vous. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas avec eux. Mais il dit, si vous obéissez à ma volonté, à mes commandements, je me tournerai vers vous. Hein ? Je vous rendrai fécond. Et je vous multiplierai. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur, de Dieu. Ceux qui obéissent au Seigneur, le Seigneur, il a les yeux sur eux. Et ça, quelle merveilleuse bénédiction de savoir que les yeux de Dieu, ils sont sur nous. Nous pouvons avancer. Si c'est toi, donne-moi la permission de marcher sur l'eau, que j'aille te rejoindre. Viens. J'aurais voulu me voir, moi. On parle beaucoup de Pierre. Mais j'aurais bien voulu me voir sur les bateaux. Et le Seigneur me dit, viens. Ah, j'en connais une qui n'aurait pas mis les pieds dehors. Hein. Et c'est ma femme. Hein. Elle a horreur de l'eau. Sûrement. Le Seigneur lui dit, viens. Je ne sais pas ce qu'il faut. Et moi, c'est pareil. Et vous aussi, hein, je ne sais pas si... Voilà. Mais Pierre, il a mis le... Sauf que Pierre, il a regardé autour. Voilà ce qu'il dit. Et au verset 10, il nous dit, « Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. » Ici, c'est la bénédiction, une provision abondante. Un peu comme David dans les psaumes 23, « Ma coupe déborde. » On demande à Dieu et des fois, il nous donne plus de ce qu'on a demandé. Hein? Seigneur, guéris-moi. Il le guérit, mais ne lui donne pas une petite santé, mais il lui donne la force. J'en connais ici même qu'il était très malade. On a prié le Seigneur, on a supplié le Seigneur. Le Seigneur, il a guéri. Une fois qu'il a guéri, il s'est remis à faire des choses encore plus poussées ce qu'il faisait avant. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Des provisions. Si on observe sa loi, ses commandements, si on est obéissant, le Seigneur, il nous bénit. Voulons-nous être bénis? Obéissons à la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher plus loin. Il ne faut pas chercher loin. Hein? Mais regardons l'autre chemin, la désobéissance, hein? Qui est le chemin large qui mène à la perdition. Voilà. Le chemin est large. Ils sont là. Hein? Hein? Les mots qui suivent les désobéissants, quels sont les mots qui suivent les désobéissants? Ceux qui n'obéissent pas. Hein? Regardez au verset 16. Il dit, j'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. De l'épouvante, de la terreur, devant la vie qui accable ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, il y a la terreur de ce qu'il sera. Mon lendemain, qu'est-ce que je vais faire? Quelle sœur, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie? On ne pense qu'à des mauvaises choses. Déjà, en voyant le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Et les jeunes aujourd'hui, j'en ai entendu beaucoup. Ah, pour nous, il n'y a pas d'espace. Ah, pour nous, il n'y aura pas de retraite. Voilà, on va mener une vie. Voilà. C'est pour ceux qui n'obéissent pas. Pourquoi ? Parce que ceux qui obéissent, ils ont la bénédiction de l'Éternel. Même s'ils vivent dans le manque, le Seigneur est là. C'est ça la vraie bénédiction. Et toutes les choses qu'ils peuvent nous accabler, ils passeront outre. Mais ici, il dit la terreur. Et il nous dit la terreur, les dépérissements. Et aussi, parmi les chrétiens, des fois, il y a des chrétiens qui n'obéissent pas. Et il y a les découragements. Et lorsque ces choses elles arrivent, bon, on ne fait pas ce que les seigneurs nous demandent de faire. Et ici, c'est pour les désobéissants. Hein? Et pourquoi est-ce que nous, chrétiens, on n'accomplit pas la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que nous sommes désobéissants? C'est parce que, des fois, nous avons plus la crainte de l'homme que la crainte de Dieu. C'est ça qui nous rend. Et il nous est dit aussi, toujours dans le verset 16, « Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. » Un peu comme il faisait le peuple d'Israël dans le livre des Juges. Hein? Ils travaillaient, et paf, ils arrivaient les Madianites, ils cassaient tout, ils leur prenaient tout. Pourquoi? Parce que il nous est dit dans le livre des Juges, si vous le lisez, vous verrez, il nous est dit, chacun, il faisait ce qui lui semblait bon, au lieu de suivre la volonté de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il va y avoir un travail non rémunéré. On peut faire des travaux si on n'est pas dans l'obéissance du Seigneur. Notre travail, il nous l'a dit la Bible, votre travail sera vain. Comme Salomon, j'ai eu ça, j'ai fait ça, j'ai essayé toutes les choses que le monde il peut me donner, mais tout est vanité. Il n'est pas arrivé à en saisir tout ce que Dieu il aurait désiré lui donner. Et il a dit, conclusion, tout est vanité. Vous sèmerez et vous ne récolterez pas. Vous sèmerez et d'autres, ils prendront ce que la désobéissance. C'est une maladie, la désobéissance. Et cette maladie, il affecte tout notre corps. Et il nous pousse dans les mains du monde, du diable. C'est ça, être désobéissant à Dieu. Et il y a encore, et il dit que, au verset 16, il dit, le travail, il sera stérile. N'essayons pas de construire quelque chose si ce n'est pas le Seigneur qui nous a dit de le faire. Parce que ça sera un travail vain. Parce que si le Seigneur il n'est pas là, sur quoi voulons-nous construire ou baser notre travail? Le Seigneur nous a parlé de cet homme qui a construit cette maison sur les sables, n'est-ce pas? À la première tempête, la maison... Mais si on construit la maison sur le roc, sur l'obéissance, alors cette maison, il peut venir la tempête, mais cette maison restera debout. Parce que c'est sur le roc. Et notre roc, qui sait? C'est Jésus. Mais qui peut combattre contre Jésus? L'Empire romain, il croyait combattre contre Jésus. Mais Daniel, il a prophétisé, l'Empire romain, une pierre, il va arriver et il va tout détruire. Il n'y a plus l'Empire romain, mais Jésus, il est toujours là. Jésus est toujours là. Qui se mettra contre Jésus? Personne. C'est le seul et unique personne qui peut nous amener à ce que Dieu désire que nous soyons. D'ailleurs, il a dit que nous allons être semblables à lui. Vous imaginez, vous serez semblables à Jésus. Je ne sais pas si vous avez des fois des rêves dans votre imagination. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu. Semblable à Jésus. Quelle merveille, n'est-ce pas? Verset 17 encore, une malédiction pour ceux qui n'obéissent pas. « Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Je tournerai ma face. » Nous n'aurons plus la communion avec Dieu. Si on est désobéissant, la communion avec Dieu, nous ne l'avons pas. Et donc, l'ennemi, il est là. Et il va nous vaincre. Ah, je peux compter, moi. Non, tu ne fais rien. Si tu n'as pas la communion avec Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit qui agit à toi, qui te parle, tu ne peux pas tenir contre les diables, contre Satan. Parce que c'est fort, il est fort, il est beaucoup plus fort que nous. Si nous pouvons le vaincre, c'est parce que Jésus, il est à nous. Et si nous sommes désobéissants, nous n'avons pas cette puissance. Les apôtres, lorsque Jésus il est parti, ils se sont enfermés dans la chambre haute. Ils avaient peur. Mais lorsqu'ils ont reçu cette puissance, ils ont ouvert les portes. Ils sont sortis dehors. Et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient à eux cette puissance. Rien ne les faisait peur. Ne prêchez plus sur ce nom. Mais à qui devons-nous obéir? À toi ou à Dieu? Parce qu'ils avaient à eux cette puissance, le Saint-Esprit. Mais si on est désobéissant, nous ne l'avons pas. Et donc nos ennemis, ils vont nous tomber dessus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la protection de Dieu. On a aussi, verset 19, « Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » Vous savez, ici, hein, lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'il fait, le ciel? Il s'ouvre pour que les prières ils arrivent. Mais ici, le Seigneur, il dit, « Je fermerai les ciels. Vos prières, ils ne monteront pas. » Et ici, il nous dit, « Ceux qui désobéissent leurs prières, ils ne seront pas exaucés. » Et pourtant, Dieu, c'est le Dieu qui exauce les prières. Mais si on est désobéissant, je peux toujours prier le Seigneur. Seigneur, fais-moi ça, fais-moi ça. Et ensuite, je n'obéis pas à sa parole. Je suis désobéissant. On peut prier toute notre vie. Hein. Le Seigneur, il n'interviendra pas. Il va fermer le ciel. Comme il a dit ici, je fermerai le ciel. Donc les prières ne passeront pas. Il n'écoutera pas. Pourquoi? Parce que nous sommes désobéissants. Voilà ce qu'il fait le Seigneur. Au verset 22, j'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Ici, le Seigneur, il parle d'une perte déchirante. On peut être, je ne sais pas, n'avoir besoin de rien, mais si on est désobéissant au Seigneur, un moment ou un jour, tout ce que nous avons, il va nous le faire perdre. Les fils prodigues, n'est-ce pas? Il était plein d'argent, il a mangé, il a bu avec ses amis, il a voulu trouver de l'aide, mais ses amis, il a dit, tu n'as plus d'argent, tu ne nous intéresses plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu chez son père. Mais il a tout perdu. Il a tout perdu. Et ça va arriver la même chose. Si on est désobéissant au Seigneur, tout ce que nous avons, ça va être perdu. Ça va être perdu. Et au verset 37, ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée. Sans qu'on les poursuive, vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée. Vous savez, dans une église, lorsqu'on est désobéissant envers le Seigneur, l'église n'avance pas. L'église n'avance pas. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Il y aura des divisions. Divisions internes. Les uns, ils frapperont les autres. Paul, il nous l'a dit en parlant des chrétiens, hein. Vous vous souvenez, c'est parfait, il a dit, « Mais vous, vous mordez vous-même. » Il parlait à une église. Hein. Il dit, « Vous, vous mordez vous-même. » Vous savez, lorsqu'on mord quelqu'un, c'est vraiment qu'on l'a en aversion. Hein. Si on est désobéissant, ça va nous arriver ça. Division, pas seulement, j'ai mis les cas dans l'église, mais dans les familles, dans le travail, dans la société, parce que tout est dirigé par le Seigneur. On ne s'en aperçoit pas, des fois on dit oui, mais il n'y a plus de Dieu, celui qui dirige c'est le diable, regarde les choses mauvaises qu'on fait. Non, Dieu est souverain, Dieu il règne. Dieu, il est là, car rien n'arrive sans la permission de Dieu. Rien n'arrive sans la permission de Dieu. Mais si on est désobéissant, Dieu, il laisse courir, mais il a toujours la main mise sur ces choses-là. Voilà pourquoi il dit, on se dévore lui-même. Et lorsqu'il y a la désobéissance dans nos églises, il faut faire très attention et se dire, dans quel état je suis? Voilà les deux chemins, obéissance, désobéissance, bénédiction, malédiction. Alors, quel est le remède à cet état lamentable? Oui, parce que c'est un état lamentable. Premièrement, c'est la confession. Pas la confession, oh mais lui il m'a fait ça. Non, la confession, regarder au plus profond de nous-mêmes, c'est dire, examine-toi. Oh, dans l'église, il n'y a pas d'amour. Mais il n'y a pas d'amour, pourquoi? Tu es dans l'église. Ça veut dire que tu es coupable, toi aussi. Ce n'est pas toujours les autres, c'est toi. Examinons-nous. Confessons nos manquements. C'est ça que le Seigneur nous demande. La confession. Et au verset 47, c'est au verset 40, hein, j'ai oublié de vous lire le verset, toujours 26. Hein, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Voilà, c'est les désobéissants. On confesse nous-mêmes, on regarde au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi ma vie elle est dans cet état? Je suis chrétien pourtant. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Il faut regarder au plus profond de nous-mêmes. La confession. Au 47. 46. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur les monts Sinaï par Moïse. Ici, le Seigneur il nous dit, je vous ai tout donné. Vous connaissez tous ma volonté. Vous connaissez les bénédictions que je vais déverser sur chacun de vous. Alors pourquoi vous ne les mettez pas en commun? Vous ne voulez pas de mes bénédictions? Le Seigneur Jésus, il avait dit aux Juifs, hein? Il dit, je vous ai annoncé la volonté de Dieu, je vous ai fait connaître les saluts de Dieu, je vous ai fait connaître Dieu lui-même, parce que en me regardant, vous voyez Dieu. Je vous ai fait connaître toutes ces choses, mais vous ne voulez pas venir à moi. C'est pas que Dieu ne veut pas, lui il est venu, il nous a annoncé, mais vous ne voulez pas. C'est ça que le Seigneur nous demande. Confession, humiliation, et ensuite automatiquement la foi dans la parole de Dieu. C'est ça que nous devons faire. Hein? Là où il y a un péché, il faut le confesser. Et ça, en s'examinant nous-mêmes, que nous pouvons dire, voilà, si ma vie elle n'est pas comme je le souhaite, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je dois confesser à Dieu. Parce que si vraiment je suis chrétien, normalement, Dieu, il doit me bénir. S'il ne me bénit pas, c'est qu'il y a quelque chose dans ma propre vie qui ne va pas. Donc, c'est à chacun de nous de regarder et se dire, oui, je confesse ce péché-là. Je confesse ce manquement-là. Et je te demande, Seigneur, de venir à mon aide. Car tout seul, je ne peux pas. Je me connais. Mais je sais que si tu viens à mon secours, je serai plus que vainqueur. Et je sais que si tu es avec moi, j'aurai toute bénédiction dans ma vie. Elle a besoin pour vivre. Donc, sur quel chemin êtes-vous? Sur le chemin obéissant qui mène au chemin que vous avez pris par le chemin étroit qui est Jésus-Christ, ou vous êtes dans le chemin des désobéissants, ce chemin large sur lequel le monde entier il est en train de marcher. Donc, à chacun de nous de regarder et de prendre les dispositions nécessaires pour que ça change. Amen.